Bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi, Didier Delattre, je déclare ouverte non pas les Jeux de Paris 2024 célébrant la 33e Olympiade de l'ère moderne, ça a déjà été fait, mais je déclare ouverte la 4e saison de notre émission Rendez-vous. Enfin, on va quand même mixer un peu les deux événements, les Jeux Olympiques, et puis rendez-vous compte, avec notre invité, notre première invitée de l'année. Bonjour et un grand merci, Madame Dominique Petit.
Bonjour.
Madame, vous êtes dans notre département certainement la personnalité la plus qualifiée pour nous parler des JO. Pourquoi ?
Je ne sais pas si je suis la personne la plus qualifiée, mais disons que depuis bientôt 40 ans, j'ai travaillé beaucoup dans le sport et bien entendu pour les Jeux Olympiques, puisque après avoir été enseignante, professeure d'éducation physique et sportive et puis entraîneur national en volleyball, j'ai eu la chance de terminer ma carrière au Comité national olympique et sportif français. Et ensuite, quand j'ai arrêté ma carrière et que je suis devenue bénévole, je suis devenue présidente du Comité départemental olympique et sportif du Val d'Oise.
Et ouais. Vous l'êtes toujours, je
non,
crois.
Non, je ne le suis plus. Ça y est, j'ai arrêté. Ah. J'ai arrêté. J'ai passé le témoin
le
et la flamme olympique à une autre personne.
D'accord. Vous avez été une sportive de haut niveau.
Oui, j'ai été internationale capitaine de l'équipe de France de volleyball dans les années 70.
12, 74.
Voilà, 74.
Donc. Voilà. Et ensuite, entraîneur national.
Oui, exactement.
Donc, qu'est-ce que c'est un entraîneur national ?
Ben, un entraîneur national. À l'époque, l'entraîneur national récupérait les athlètes, les meilleurs athlètes dans les clubs français. Et puis, on faisait quelques stages et participer à un certain nombre de compétitions internationales. Bon, mais depuis, le sport a beaucoup évolué. Si moi, j'ai été entraîneur national avec quand même mon métier à côté, hein, professeur, maintenant, entraîneur national, c'est un métier à temps plein puisque le sport de haut niveau, c'est un entraînement tous les jours, trois fois par jour.
Vous êtes aussi chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur.
Oui.
Tous mes respects.
Merci.
Et j'ai vu aussi que vous avez été membre de la commission technique du Comité international des Jeux méditerranéens.
Oui. Donc les Jeux méditerranéens, ce sont, pour aller rapidement, ce sont des mini-Jeux olympiques en fait. Ce sont des jeux qui sont réservés aux nations qui bordent le bassin méditerranéen. Et donc, comme pour les Jeux olympiques, il faut désigner des villes. Il y a des villes qui candidatent. Et donc, la commission d'évaluation va dans les villes pour observer. Et après, commission technique, on s'assure qu'il y a tous les moyens sportifs les plus à même de permettre des performances.
Mais toujours val-d'oisienne.
Toujours.
Depuis
toujours. j'ai habité Enghien pendant...
Ah bah voilà.
Voilà. J'ai habité Enghien-les-Bains pendant 40 ans et maintenant, ça fait bientôt 35 que je suis à Saint-Leu-la-Forêt.
Voilà. Encore une personnalité de Saint-Leu, parce que j'en invite souvent en fait. Vous étiez aussi professeur. Alors on pourrait dire, quelle que soit la discipline, qu'être prof, c'est quand même du sport, on va dire.
Ah oui.
Et du sport de haut niveau parfois, gérer des groupes d'ados.
Parfois. Bon, moi j'ai été prof, oui, j'ai été nommée à l'université de Villetaneuse. Voilà. Donc j'avais très grands ados. Ça a été du sport parce que j'ai été nommée, je suis professeure d'éducation physique et sportive, j'ai été nommée à l'université, elle venait d'ouvrir et il n'y avait aucune installation sportive. Donc ça a été du sport parce qu'on faisait du footing dans les vergers et faire du footing à des gens qui avaient 18, 19, 20 ans, c'était du sport.
D'accord. Mais je crois que vous avez aussi toujours œuvré pour le travail en équipe. C'est-à-dire que vous avez aussi toujours cette passion de formation des jeunes et de formation des formateurs aussi.
Oui, quand j'étais au comité départemental olympique, j'ai lancé des stages de jeunes dirigeants, voilà, pour essayer d'assurer la relève des bénévoles dans les associations sportives et dans les instances dirigeantes. Et puis de la formation, j'ai fait de la formation de cadre, beaucoup de formation de cadre. Bon, quand j'étais prof, de la formation de prof, et puis ensuite de la formation de cadre technique quand j'étais à la Fédération française de volleyball.
Vous avez même publié un livre qui s'appelle « Le volleyball, de l'école aux associations.
On peut rien vous cacher.
Ah non, rien du tout.
Oui, c'est un livre que j'ai écrit avec deux collègues, qui a été publié à la revue EPS, les éditions revue EPS à l'époque. Donc, c'était un livre qui permet d'enseigner le volleyball de la 6e jusqu'à
l'université.
Voilà, l'université, puis surtout l'Union nationale du sport scolaire.
Alors, j'ai vu qu'en fait, vous aviez découvert la pratique du vrai volley, justement en première année de formation, quand vous êtes rentré dans l'école qui forme les profs d'EPS. Là, vous avez découvert le vrai volley. Qu'est-ce que ça veut dire?
Parce que, bon, jusque-là, moi, j'avais fait beaucoup d'athlétisme. C'était à Deuil-la-Barre, d'ailleurs, au club de Deuil-la-Barre. Et puis, quand j'ai fait ma première année de professorat d'éducation physique, j'ai eu la chance d'avoir une enseignante de volley qui, elle-même, était en équipe de France de volley. Et donc là, j'ai découvert, en effet, ce que c'était que le volleyball. Le volleyball, en général, au lycée, on fait quelques passes et puis la balle tombe par terre. Et là, j'ai découvert que c'était un jeu très, très collectif, justement, sans doute le plus collectif des jeux collectifs. Et puis, on a pu faire des tournois, commencer avec elle à se déplacer à l'étranger. Et c'est là où j'ai commencé à apprécier cette pratique d'un sport qui a beaucoup évolué, mais qui est magnifique.
D'où l'importance quand même de certains professeurs.
Oui, ça c'est clair. C'est clair que j'ai eu la chance, moi, d'avoir des professeurs d'éducation physique qui m'ont ouvert la voie.
Voilà, vous êtes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte où nous recevons Madame Dominique Petit, ancienne présidente du comité départemental olympique et sportif du Val-d'Oise, mais encore présidente dans sa tête et dans son enthousiasme à ce que je vois, qui nous parle des JO, bien sûr. Madame, vous avez demandé à ce qu'on écoute une musique de film.
Oui, Les chariots de feu. La musique déjà en elle-même est magnifique, mais le film est extraordinaire. C'est l'histoire de jeunes athlètes qui veulent participer aux Jeux Olympiques, qui participent aux Jeux Olympiques et de montrer tout l'effort nécessaire pour arriver à une telle performance. Et je pense que nos éditeurs ne l'ont pas vu, je leur conseille fortement d'aller voir ce film. Pardon, après les Jeux, ils verront comment les athlètes qui auront sans doute eu des médailles. On n'est pas champion olympique pour rien. Il y a un investissement énorme et ce film le reflète bien.
Film de Hugh Hudson, 1982, musique de Vangelis, donc formidable.
Formidable.
Et puis aussi, tout ce que vous avez dit, le fait de se dépasser, de dépasser ses limites par des efforts constants, mais aussi sur un fond, et là on revient dans l'actualité, d'antisémitisme, puisqu'un des deux jeunes sportifs, Harold, est juif et qu'il est victime d'antisémitisme. Et malgré tout, il va quand même parvenir jusqu'à la finale des Jeux Olympiques.
Oui, malheureusement, je serais tenté de dire que l'histoire se reproduit.
Voilà.
Les Jeux Olympiques et Pierre de Coubertin, lorsqu'il a relancé les Jeux Olympiques modernes, souhaitait que les Jeux Olympiques, l'Olympisme soit l'universalité, que toutes les barrières soient effacées, que chacun puisse mettre son potentiel, amener son potentiel le plus haut possible. Malheureusement, on retrouve les mêmes problèmes. Et là, je disais dans le journal ce matin que l'équipe israélienne était sous surveillance, sous sécurité, 24 heures sur 24.
Par le GIGN.
Voilà. Donc c'est quand même, et quand on sait ce qui s'était passé en 72 à Munich, ça recommence. Enfin, c'est un perpétuel recommencement.
On écoute la bande-annonce du film, Les chariots de feu, donc par Vangelis. Je crois aussi que vous êtes très investie dans tout ce qui est sport et handicap.
Bah, disons que j'ai eu la chance, quand j'étais au Comité national olympique et sportif français, j'ai eu la grande chance de rencontrer Béatrice Hess, la nageuse paralympique, la plus grande médaillée française en nombre de médailles d'or, d'argent et de bronze. Et quand j'ai rencontré cette jeune femme qui était en fauteuil roulant et qui se déplaçait en toute autonomie, et je me suis dit, quand on voit des personnes dans situation de handicap comme elle, on n'a pas le droit de dire qu'on a mal à la tête. C'est pas possible. Elle était extraordinaire d'une simplicité, malgré tous les résultats qu'elle avait. Vraiment toujours dans la joie. Et elle m'a dit un jour, si j'avais pas été handicapée, compte tenu de son contexte social d'où elle venait, elle m'a dit, si je n'avais pas été handicapée, je serais caissière dans un supermarché. Bon, ce qui n'est pas péjoratif, mais ce qui, alors qu'elle était membre du Comité international olympique et qu'elle avait voyagé dans le monde entier et connu toutes sortes d'expériences. Donc pour elle, son handicap a été un plus en fin de compte. Et c'est souvent quand on entend les personnes en situation de handicap, les athlètes paralympiques, c'est souvent ce qu'ils disent, que leur handicap leur a permis d'aller au-delà de ce qu'ils auraient peut-être fait s'ils n'avaient pas eu d'accident dans la vie. Donc je me suis dit, moi, il faut que à mon niveau, et entre autres dans notre département, eh bien, on puisse permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder à la pratique. Et quand j'ai été présidente du CDOS, on a eu l'opportunité d'avoir un financement de l'État qui nous a permis, avec le conseil départemental à l'époque, de faire toute une enquête sur le département et de voir comment quelles actions mettre en œuvre pour que les personnes en situation de handicap puissent accéder le plus facilement possible au club et au sport qu'ils avaient envie de pratiquer.
Et aux installations.
Et aux installations, bien sûr.
D'où la publication d'un livre blanc.
Oui.
En 2019.
C'est ça, exactement. On a publié avec le conseil départemental ce livre blanc qui avait été présenté d'ailleurs au CDFAS à Aubonne avec Madame Kavecki, la présidente.
Alors le CDFAS,
voilà.
Qu'est-ce que c'est?
Le CDFAS, c'est un centre qui a été créé il y a déjà de nombreuses années de manière à ce que les athlètes les plus performants du département puissent venir s'entraîner dans les meilleures conditions possibles. Donc il y a des très très belles installations, bien sûr, c'est à Aubonne.
Pendant les Jeux Olympiques
Pendant les Jeux Olympiques, mis à disposition du Comité National Olympique des États-Unis. Donc je vais dire que c'est un bunker.
Oui, inaccessible.
Voilà. Inaccessible au lambda, mais je pense que, bien entendu, pour que le Comité Olympique américain ait accepté, c'est parce que il s'était engagé à faire de magnifiques installations. Donc, tous les herbechements ont été revus. La piste a été refaite, les salles de sport co aussi. Donc, je pense qu'en tant que pérennisation et héritage olympique, le CDFAS va ressortir grandi de cette expérience.
Voilà, vous êtes toujours bien sûr IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte avec Madame Dominique Petit qui continue à nous parler des Jeux Olympiques. Alors justement, on va retourner à l'origine.
Donc les Jeux Antiques en Grèce.
À Olympie.
À Olympie.
C'est tout bête.
Voilà, et il y a 3000 ans environ sont nés les Jeux Olympiques. À Olympie, c'était un magnifique site en l'honneur des dieux. Et il s'y déroulait des Jeux sportifs tous les ans. Et on a décidé, enfin à l'époque, dans autour de 776 avant Jésus-Christ, les Jeux Olympiques sont nés. Et c'était un lieu de rendez-vous des différentes cités grecques de l'époque. Sur un même lieu, des athlètes se rencontraient et se confrontaient. Si les jeux sportifs de l'époque avaient lieu tous les ans, là, il a été décidé que ces jeux beaucoup plus importants auraient lieu tous les 4 ans, toujours au même endroit, à Olympie. Et c'est de là qu'est venu le mot Olympiade, qui, à l'époque, servait de système de datation.
Exactement.
Voilà,
un repère chronologique.
Voilà,
on comptait en Olympiade.
Ouais, le temps se comptait, non pas en années, mais en Olympiade.
Alors, ce qui est quand même assez incroyable, c'est qu'on date, oui, les premiers vrais Jeux Olympiques de -776. Et ils auraient duré jusqu'en +393 après Jésus-Christ, donc pratiquement 1000 ans. Oui. Ça, je pense, ouais. Les gens, je pense, ne le savent pas.
Non, on ne sait pas. Il y a beaucoup de choses sur les jeux antiques que les gens ne connaissent pas. Et en effet, alors, au départ, les jeux étaient réservés uniquement aux Grecs, à des athlètes qui étaient en général d'un milieu élevé, puisque les esclaves n'avaient absolument pas le droit d'y participer. Il fallait être, à l'époque, on disait libre. Donc, les athlètes venaient de familles assez huppées, si je puis dire. Et petit à petit, ces jeux se sont ouverts. Et les Romains ont pu participer à l'époque. Et ils se sont emparés de ces jeux. Et ils les ont malheureusement transformés en jeux du cirque. Les gladiateurs, ce qui n'avait plus rien à voir avec les jeux antiques qui étaient à la gloire des dieux.
Ils sont fous, ces Romains.
Ouais, donc à partir de là, les jeux tels qu'on les a connus en Grèce ont été arrêtés complètement et ils ne renaîtront qu'avec Pierre de Coubertin, mais au XIXe siècle.
Voilà. Alors à l'époque, les jeux duraient 5 jours.
Oui, les jeux duraient 5 jours, alors que maintenant, ils durent presque plus de 2 semaines, puisque là, la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024 aura eu lieu le 26 juillet, mais dès le 24 juillet, il y aura eu des épreuves, et ça va aller jusqu'au 10 août. Donc, c'est en effet 5 jours. Ben, pourquoi 5 jours? Parce qu'il y avait beaucoup moins de compétitions qu'il y a à l'heure actuelle. Les compétitions qu'il y avait déjà aux Jeux antiques n'étaient que des compétitions individuelles. Il n'y avait absolument pas de sport collectif comme il y en a maintenant. Et puis, c'était des compétitions qui mettaient en exergue surtout des guerriers. Donc, il y avait des compétitions hippiques, avec des courses de chars. Il y avait de la course à pied.
Avec des armes.
Voilà, avec des courses en armes, oui. Il y avait beaucoup de sports de combat.
Le fameux pugilat,
puisqu'on pouvait même aller, il n'y avait pas de règles à l'époque, on pouvait
tuer son adversaire.
Maintenant, les règles ont bien évolué. Et puis, il y avait une dernière épreuve qui était le pentathlon, qui était une épreuve athlétique qui, comme son nom l'indique, il y avait 5 disciplines différentes, du lancer de disque, du saut en longueur, du lancer de javelot, de la course et de la lutte. Voilà, donc les épreuves, 5 épreuves simplement. Pour ça, la durée des Jeux était beaucoup moins longue.
Forcément. Puis il ne devait pas y avoir toutes les phases de qualification.
Non, en plus, non. les athlètes étaient regroupés, en fait. Ils venaient de leur cité, ils étaient regroupés à Olympie. Et les meilleurs étaient gardés pour faire la compétition.
Alors en plus, ces 5 jours, remarquez, ce n'est pas très long, s'accompagnaient d'une trêve de 3 mois. ça tombe bien.
Hein.
Faut mieux ça que l'inverse.
Voilà. En fait, parce que les différentes cités grecques étaient toujours en lutte les unes contre les autres. Il y avait toujours des guerres sur chacun des territoires. Et par contre, pendant les Jeux, cette période de 5 jours, tous les combats s'arrêtaient dans toutes les cités grecques. Là encore, le CIO aurait souhaité que nous puissions avoir la même chose dans les Jeux modernes. Malheureusement, cette année encore, on a la preuve que bien qu'il y ait des Jeux olympiques, la guerre continue
partout, presque partout,
et tout près de chez nous.
Alors, vous avez expliqué aussi que à l'époque, il y avait déjà du dopage, de la corruption et de la tricherie. Alors,
oui. Vous voyez,
c'est humain.
C'est bien inscrit dans les gènes, je serais tentée de dire. En effet, déjà à l'époque, les athlètes se dopaient. Alors,
la potion magique.
Voilà, Astérix et Obélix, pour nos Gaulois. On ne sait pas quel produit, mais ils se dopaient, ça c'est évident. Les tricheries, au départ, il y en a même qui... Bon, les athlètes étaient nus à Olympie. Au départ, ils n'étaient pas nus. Ce qui s'est passé, c'est que c'est une anecdote, mais importante, c'est que les femmes n'avaient pas le droit de participer au jeu, et pour cause, elles n'étaient pas des guerrières et elles n'étaient pas autorisées. Et bien, il y en a une qui s'est passée inaperçue, en fait. Et donc, de ce jour-là, on a décidé que les athlètes seraient nus. Comme ça, on était à peu près certains que les femmes n'étaient pas présentes. Donc voilà, il y avait déjà des phénomènes qu'on retrouve maintenant, contre lesquels on lutte. Et bien, on sait qu'à l'époque, ils existaient déjà.
Mais il n'y avait pas les moyens pour détecter le dopage.
Non.
Alors, c'était quand même des jeux notamment dédiés aux dieux, puisque ça avait lieu aux alentours du sanctuaire de Zeus.
Ouais.
Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que contrairement à ce qu'on peut imaginer, les vainqueurs ne recevaient pas une couronne de laurier.
Non, ils recevaient une couronne d'olivier.
Mais oui.
Voilà.
Alors ça, je pense que les auditeurs ne le savaient pas. Ouais. Alors pourquoi couronne d'olivier?
Bah, parce qu'à Olympie, c'est le site, entre autres, est magnifique. Il y a des oliviers partout. Je n'ai pas, d'autres explications, moi, personnellement. Il y en a peut-être une. Vous l'avez peut-être, je ne sais pas. Mais ce n'était pas une couronne de laurier, mais l'olivier était le symbole de...
Et puis, l'arbre sacré, donné aux Grecs par Athéna, la fille de Zeus.
Voilà.
Donc, autant lui rendre hommage également. Alors, par contre, ça s'appelait le cotinos. Hein, la couronne d'olivier. Par contre, au jeu delphique, donc qui avait lieu à Delphes, eh bien là, on attribuait une couronne de laurier. Voilà. Alors que plus étonnant, dans les jeux ismiques, c'était une couronne de pin et de céleri sauvage. Mais enfin, il y avait de quoi manger.
Il y avait de quoi manger. Bon, maintenant, ce sont des médailles.
Vous êtes toujours bien sûr EDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte où nous recevons Madame Dominique Petit qui continue à nous parler des Jeux Olympiques. Madame, vous avez demandé à ce qu'on passe l'hymne olympique. Toute une histoire aussi.
Oui, l'hymne olympique composé et écrit par des Grecs.
Moi, Spiros, voilà. Samaras pour la musique.
Voilà.
Et pour les paroles, poète Kostis Palamas.
Donc, et cet hymne, il est superbe, très très beau.
Il est très court. Trois strophes.
Oui, mais il est court tout en étant
dense.
Et la musique est vraiment magnifique. Et c'est vrai que quand vous êtes sur un stade et que vous écoutez cet hymne avec le drapeau olympique qui monte au bas, c'est extrêmement émouvant.
Voilà, on va l'écouter, puis on racontera un peu l'histoire de cet hymne, bien à dire. On retrouve Madame Dominique Petit qui continue à nous parler des Jeux Olympiques et en particulier de l'hymne olympique, le plus ancien symbole des Jeux de l'ère moderne, qui a été pour la première fois joué aux Jeux Olympiques de 1896 en Grèce, devant 80 000 spectateurs enthousiastes, devant le roi Georges Ier. Et le compositeur, Spiros Samaras, en personne, dirigeait ce jour-là un ensemble de 9 orchestres philharmoniques et de 200 choristes. Ça avait de l'allure.
Ah oui, ça avait de l'allure. Oui.
Ça a touché tellement l'âme des spectateurs qu'ils ont demandé à ce qu'on le rejoue. Et donc, il a été rejoué. Par contre, malgré ce succès de départ, l'hymne a disparu du programme des JO pendant plus de 60 ans parce qu'il a été remplacé lors des cérémonies d'ouverture. Soit il n'y avait pas d'hymne du tout, soit c'était l'hymne national du pays hôte qui recevait les JO. Il a fallu attendre 1958 pour que l'œuvre de Spiros Samaras soit jouée à nouveau devant le CIO. Et c'est le prince Axel de Danemark, qui était membre de ce comité, qui a proposé que l'on joue à nouveau l'hymne. Et la proposition a été adoptée à l'unanimité. Et à partir de 1962, l'hymne olympique original est définitivement intégré dans le protocole. Alors, il est joué après le défilé des athlètes et après l'ouverture officielle des Jeux, prononcée par le chef d'État du pays hôte. On va écouter maintenant un extrait de la version française, interprété par le chœur de Safran, sous la direction de Jean-François Breteau. Le chœur de Safran dont la vocation est de s'inscrire dans le paysage musical et culturel du territoire du Loiret. En plus de l'hymne officiel, l'organisation Paris 2024 a choisi Victor Lemann comme compositeur du thème musical officiel de nos Jeux Olympiques et Paralympiques. Un thème musical officiel, je cite, « maniant subtilement les sonorités symphoniques et électroniques, incarnant l'esprit dynamique et universel des Jeux de Paris 2024 ». Intitulé « Parade », ce thème musical officiel a été interprété ce 8 mai 2024 à 19h30 précisément, lors de l'arrivée de la Flamme Olympique à Marseille, jouée en direct exceptionnellement par l'Orchestre de Marseille depuis le Palais du Pharo et marquant ainsi le début des célébrations des Jeux en France. Reportage d'Eurosport du 10 mai sur la descente de la torche olympique débarquant du Bélem à Marseille.
Ah, les torches fabriquées en France, là encore par un partenaire des Jeux. Et c'est le grand moment. Voilà Florent Manaudou qui va transmettre cette flamme à Nantenin Keïta, championne paralympique. Et ça aussi c'est une très très belle image. Il y a ce lien d'une équipe de France unie. Les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, ce sont seulement les Jeux de Paris 2024 et ce depuis le début. Nantenin Keïta donc qui a récupéré cette torche aux côtés de Florent Manaudou. Ici, on a la parité, un homme, une femme, un athlète olympique, une athlète paralympique, Nantenin Keïta, que l'on retrouvera également cet été, hein, qui va tenter de, eh bien, d'avoir encore plus de médailles. Elle, la quadruple médaillée sur 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres. Et le troisième porteur qui a récupéré cette flamme, c'est Joule. Et voilà le passage avec la culture également, ça aussi c'est important.
Voilà, avant que notre émission se termine, ça passe très vite. Madame Petit, est-ce que vous avez un souvenir fort des récents Jeux Olympiques ?
Personnellement, moi, ce qui m'a touchée, c'est la première fois où j'ai participé à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en 1988 à Séoul. C'est vrai que quand vous rentrez sur le stade olympique avec des délégations qui sont déjà arrivées et les délégations qui vous succèdent, que vous voyez le public dans les gradins et que vous assistez ensuite à la cérémonie d'ouverture, c'est inoubliable. C'est inoubliable. Et la vie ensuite au village olympique où on côtoie les plus grands athlètes du monde, c'est extraordinaire. Maintenant, en matière de performance sportive, moi j'ai souvenir déjà d'avoir regardé les Jeux Olympiques à la télévision, d'avoir vu Mimoun, d'avoir vu Colette Besson, nos athlètes français qui étaient extraordinaires. C'est impressionnant. Je pense que le sport crée des émotions. Je serais tenté de dire que, bon, la culture des gens qui sont très, très cultivés, par exemple des peintres devant des tableaux, peuvent ressentir ce type d'émotion. Mais une performance sportive, une épreuve sportive, l'ambiance qui règne dans un stade crée des émotions qu'on ne peut pas oublier.
Voilà notre première rencontre avec Madame Dominique Petit, qui a longtemps été présidente du comité départemental olympique et sportif du Val-d'Oise. Notre première rencontre est terminée. Merci Madame. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Didier Delatte sur IDFM. Vous retrouverez cette émission en podcast sur le site de la radio. À la semaine prochaine, même heure, même adresse, pour un nouveau rendez-vous compte.